Merci.
Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté. Réalisation signée Alexandre Fougeron. Autour de moi, Lucille Como, Marie Sorbier et Philippe Chevillet. Notre affiche Canata, épisode 1, la controverse. Robert Lepage avec les acteurs du Théâtre du Soleil. La Locandiera de Carlo Goldoni, mise en scène d'Alain Françon à la Comédie Française. Un coup de cœur de Marie Sorbier pour le livre de Joseph Danan paru chez Actes Sud, Absence et Présence, du texte théâtral. Et nous aurons la joie d'ouvrir et de parcourir le petit salon de Lucille Como, consacré ce soir au théâtre immersif. Pour en savoir plus, écoutez jusqu'au bout. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur. À voir jusqu'au 24 mars à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Et nous ouvrons cette dispute avec Canata, épisode 1, La Controverse, un spectacle qui était déjà en soi un événement, car pour la première fois en 54 ans d'existence, la troupe du Théâtre du Soleil travaille avec un autre metteur en scène, Karianne Nouchkine. Il s'agit du Canadien Robert Lepage, mais le spectacle a aussi fait événement avant sa création, puisqu'il s'intéresse aux autochtones du Canada, sans qu'aucun interprète en soit un, ce qui a déclenché une vaste polémique outre-Atlantique au nom de la putative appropriation culturelle. En juillet, face à la pression grandissante, Robert Lepage avait dans un premier temps renoncé à cette création avant de se raviser, d'intégrer cette polémique, cette controverse au spectacle lui-même. Alors, pas la première, mais nous avons assisté avec Lucille Como à ce qui était une générale, samedi 15 décembre, la première ayant véritablement eu lieu le lendemain. Elle déroule un récit contemporain nourri par les siècles d'oppression des nations premières. Petite ambiance du spectacle, ambiance de Colombie-Britannique, décrit ainsi une forêt splendide et sereine. Qui va ouvrir cette dispute, je me demande. Et puis, vous m'avez corrigé, Marie Sorbier et Philippe Chevillet, vous avez vu aussi une générale le lendemain de la normalement première qui était une générale. Bon, il y aura peut-être des générales un certain temps comme ça. Marie Sorbier, vous commencez à nous parler de Canata, épisode de la controverse.
Oui, alors, je commence par parler de la mise en scène et pas forcément de la polémique, on est d'accord?
Vous faites exactement ce que vous voulez.
Je préférerais parler de l'artistique formidable. Alors, c'est sûr que les pièces comme ça qui commence par une polémique, c'est compliqué, je trouve, d'arriver en tant que spectateur, parce que tout le monde, en tout cas au Théâtre du Soleil, portait quand même cette polémique un peu sur les épaules, que ce soit du milieu professionnel ou même le public très averti par les diverses prises de parole d'Ariane Mouchine notamment. Donc, essayer d'y arriver vierge et de voir un spectacle pour ce qu'il est et non pas pour la polémique qu'il a générée, c'était déjà en soi une gageure, mais j'ai essayé en tout cas d'être dans cet esprit-là.
Je vous en félicite.
Voilà, pour voir cette pièce. Et moi, j'aime beaucoup habituellement le travail de Robert Lepage, en tout cas les derniers spectacles que j'ai pu voir. J'ai malheureusement pas pu voir les premiers. Et là, j'étais pas née. Et j'ai trouvé celui-ci un petit peu lisse. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la série télé, alors c'est pas forcément négatif, dans la mise en scène, dans ce rythme effréné qu'il maîtrise parfaitement. Je l'ai trouvé très bon dans le savoir-faire, c'est un artisan, Robert Lepage, c'est-à-dire qu'il maîtrise l'art de la mise en scène comme peu le font, avec quand même un archétype nord-américain, c'est-à-dire qu'on reconnaît cette efficacité de la mise en scène. Les décors changent à une vitesse incroyable, donc tout ça est formidable à regarder en tant que spectateur.
Oui, parce qu'il y a plusieurs lieux d'action et que les enchaînements entre les tableaux sont très rapides, mobilier sur roulette,
tout à fait, on passe de la rue au loft,
changement de fond vidéo pour le décor, le fond de scène.
Tout à fait, et tout ça dans une fluidité, même pour une répétition comme on nous l'a annoncé, qui était quand même assez assez épatante. Et ça, on se laisse prendre évidemment par la maestria de ce qui est montré sur scène, donc ce côté savoir-faire. Sur le propos de la pièce et sur le fond, j'ai trouvé ça finalement assez gentil, assez lisse. On nous raconte une histoire un peu tragique qui est certainement proche de la réalité, de ce que m'ont dit les Canadiens qui étaient autour de moi. C'est quand même très, très réel ce qui se passe. Tous ces descendants des Premières Nations qui se retrouvent à la rue dans des ruelles sordides de Vancouver en train de se shooter, de se piquer, puis de leur arriver les pires misères du monde. Plus toutes ces femmes autochtones qui se sont fait enlever et puis tuer par un serial killer. Enfin, tout ça est retrouvé dans la pièce.
Et tous les enfants aussi placés...
Et tous les enfants volés
en orphelinat et placés. Ou dans les familles adoptives.
Exactement. Donc toutes ces histoires tragiques, on les retrouve dans son propos. Ce qu'il en fait, j'ai trouvé ça un peu... j'allais dire un peu léger, c'est un peu contradictoire ce que je viens, mais c'est pas très appuyé, et en tout cas il n'y a surtout aucune émotion qui passe. Enfin, moi je n'ai ressenti aucune émotion. Donc je regardais ça comme un spectacle bien fait. Voilà.
Philippe Chevillier, première impression sur ce spectacle de Robert Lepage.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais je suis quand même un peu dans cette ligne-là, qui est que moi aussi, je suis arrivé en m'attendant presque à voir une fresque, l'histoire des autochtones du Canada, quelque chose de. Et en fait, c'est ce que j'ai apprécié. Alors, pour le coup, dans ce texte, là où je trouve qu'il est réussi, c'est que en croisant plusieurs histoires gigognes, en croisant ce fait divers atroce hein, qui date de 2006, je crois, de ces femmes tuées, en parlant de ce quartier de Vancouver. En revenant et en créant ces deux personnages, tout d'un coup, on se demande ce qu'ils font au début, ces deux Français qui arrivent, mais qui vont porter en fait la controverse à la fin. Je trouve que finalement, cette écriture est assez bien cousue. J'ai trouvé aussi ce qui était amusant, qu'on a un Robert Lepage qui travaille avec Mnouchkine, c'est un cousinage quand même. Donc, Lepage, il peut faire aussi beaucoup de techno et beaucoup de système D. Là, il a fait plutôt de système D. Il a 30 comédiens investis qui l'aident à déplacer les choses.
32, donc, moi, j'ai compté.
32, exactement, oui,
ah
c'est
bon.
Cela. Vous avez raison.
Non, non, mais
vous avez toujours
changé
raison.
D'un jour à l'autre. Non, oui, j'aime bien. On peut garder cette phrase. Il est isolé. J'ai mais, toujours raison.
Et donc, c'est 32 comédiens qui font bouger les décors avec peut-être moins d'images spectaculaires. Encore que l'émotion, il y en a quand même un ou deux moments. Notamment, il y a une pipe d'opium qui crée un moment de rêve qui est quand même assez.
De trip,
et qui est quand même assez génial et qui est vraiment là, c'est tout l'art de Lepage de faire
ça
ce genre d'image.
Ça a l'air d'avoir emballé Marie Sorbet,
incroyable.
Mais elle y reviendra.
Moi, je trouve ce moment très très beau, y compris bon la fin. Après, donc, je pense que le souci avec ce spectacle encore très vert, de cette répétition, c'est que, alors, on voit bien l'intérêt qu'il y a eu de faire jouer le Théâtre du Soleil, parce que justement, comme c'est plein de nationalités différentes, plein d'origines différentes, il casse l'argument selon lequel il faudrait jouer forcément, faire jouer des autochtones par les autochtones. Il montre que là, il y a toujours cette diversité dans le Théâtre du Soleil. Il l'utilise plutôt bien. Mais on a une difficulté peut-être pour Robert Lepage, qui a l'habitude de diriger plutôt 9-10 acteurs, d'avoir 32 comédiens. Et là où je pense le spectacle va gagner en intensité et en rythme, en revanche, en jeu, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est là, je pense qu'il y a des scènes. Parce que, en fait, Lepage, il fait souvent des choses qui ressemblent à des sitcoms, à des séries télé bien arrangées comme ça. Et quand il a ses comédiens qui maîtrisent totalement la chose, il y a ce décalage qui se crée, ça marche très bien. Là, ça marche un petit peu moins bien parce qu'il y a des scènes qui sont pas très bien joué. Donc on pourra revenir. J'ai un peu long peut-être.
Non, mais je vous avais absolument pas interrompu, mais donner la parole à Lucille Comeau alors.
Oui, en fait, il y a deux gestes dans la pièce qui sont identifiables dès le départ, qui sont en effet ce premier geste qui avait été l'ambition de Robert Lepage au départ, de faire une histoire, et donc sur le temps long, donc la pièce est longue, il y a un rythme, moi je trouve, qui fonctionne bien, et c'est une sorte de saga en fait, avec énormément de personnages, donc sur le Canada et un quartier de Vancouver en particulier. Et puis, il y a ce geste d'auto-justification qui s'inclut de manière à mon avis, très malhabile au spectacle, puisqu'en fait, il s'inclut sur la fin. On voit presque dans la couture des scènes et des tableaux quand est-ce qu'il s'est dit, bon là, je vais y aller et je vais utiliser un personnage, qui est en l'occurrence le personnage principal d'une jeune Française qui se retrouve avec son copain à Vancouver dans un loft, une bobo, quoi. C'est clairement ça qui est déterminé, qu'on veut nous montrer, et qui est peintre et qui veut peindre les femmes disparues du quartier, les femmes autochtones, et qui se retrouve face à la controverse elle-même. Donc évidemment, le personnage prend en charge le relais du discours, qui est un discours d'un simplisme assez effarant. Enfin, moi j'étais désarmée, même parce qu'on me disait sur ce que c'est que l'appropriation culturelle ou sur ce que Robert Lepage a pu percevoir des débats au Canada. De toute façon, moi, en général, je trouve que quand un spectacle intègre en lui-même son propre geste de création et de justification, c'est un problème, parce que le spectateur n'a absolument aucune place, aucun esprit critique possible. Il y a presque un geste fasciste, à mon avis, dans ce geste-là, en tant que geste artistique. Par ailleurs, ça me fait le même effet que pour Une chambre en Inde, dont on avait parlé. C'était ma première expérience à la Cartoucherie. C'est un effet d'anachronisme absolu. Moi, j'ai vraiment l'impression, en arrivant à cet endroit, qu'on me met à la fin du XXe siècle, quand la question de l'universalisme et de l'atelier monde et de toute cette idéologie de gauche qui était celle de Mouchkine avait encore cours. Sauf que, en fait, cette idéologie, pour penser le monde aujourd'hui, à mon avis, elle ne fonctionne pas. Donc, l'humanisme de Robert Lepage, cette espèce d'atelier monde qu'il nous présente à la fin, puisque tous les personnages défilent et finissent par communiquer ensemble, s'entendre d'un point de vue artistique, d'un point de vue amical, d'un point de vue amoureux, selon toute leur race, leur sexe, etc. Je pense que ce type de discours n'a plus de sens pour décrire la société aujourd'hui. Or, c'est ça qu'il veut faire Robert Lepage. Donc, il y a un gros, gros problème de projet politique, comme, à mon avis, il y a aussi un problème de projet politique avec le Théâtre du Soleil et Mouchkine aujourd'hui. Je pense que c'est terminé et que on ne peut plus expliquer le monde avec ce biais-là. Après, bon, j'y reviendrai peut-être, mais sur l'esthétique, sur le côté série télévisée, je trouve que justement il y a un très grand contraste entre la modernité des moyens mis en œuvre et quelque chose d'extrêmement vieux et de très daté sur le fond.
Alors, il y a d'une part ce que pointait Philippe Chevillier, à mon sens, c'est vraiment un problème de jeu des interprètes du Théâtre du Soleil, qui jouent beaucoup en force, beaucoup de façon très appuyée, on dirait très théâtrale, avec plein de d'accent circonflexe, parce que c'est un peu ça, et du coup c'est vrai que ça se marie assez peu avec le type d'écriture et de mise en scène de Robert Lepage, à mon sens, même si là, évidemment je rejoins Marie Sorbier, il y a un savoir-faire là, dans la fluidité, les 2h30 de spectacle passent assez vite,
pas du tout enfin voilà, oui, c'est très agréable à voir, y a
absolument
pas de problème.
Alors c'est vrai que le simplisme du discours m'a aussi complètement désarmé, cette séquence à laquelle vous faisiez référence, Lucille Comeau, de l'artiste peintre qui explique voilà pourquoi elle a le droit de peindre des femmes autochtones, mais ça va jusqu'à la fin aussi du spectacle, parce que de cette grande séquence qui est, pour moi, enfin moi je l'ai lu d'une façon un peu plus simpliste, qui est les morts ne sont pas morts tant que l'art et la culture continuent à apporter leur mémoire. Et donc si on en est effectivement là, c'est un peu court, jeune homme. Et puis bon, il y a quand même, dans le simplisme, il y a une séquence qui est assez belle visuellement, la séquence du tai chi, pendant qu'un comédien nous fait un exposé sur pourquoi une immigration chinoise et une immigration de la drogue venue de Chine suite aux guerres de l'opium est arrivée au Canada. Là, c'est Narcos Canada, mais vraiment en version ultra, ultra simplifiée. Philippe Chevillier.
Alors moi, Lucille, je trouve que le mot de fascisme vis-à-vis de... Je trouve que vraiment, il ne faut pas employer les mots comme ça parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas un spectacle fasciste.
Mais c'est
parce
une
qu'il a
forme.
Non, ce n'est pas du tout une forme de fascisme.
De fascisme, je veux dire, le fascisme est aussi une forme. C'est une manière d'enfermer quelqu'un dans
tout
une idéologie, dans un fonctionnement.
Tout spectacle avec un texte qui est engagé, à ce moment-là, effectivement, s'il est bien fait, manipule le spectateur. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que l'universalisme ou l'humanisme, c'est peut-être plus à la mode, mais pourquoi ça serait plus une pensée qu'on peut soutenir? C'est parce qu'il y a des sociologues, des politologues, des idéologues qui tiennent ce discours-là. On n'est pas forcément d'accord. Et moi, j'avoue que ça me fait plaisir de voir un discours universaliste au théâtre. Donc vous voyez, il y a des gens qui peuvent aimer ça. C'est peut-être parce que je suis vieux. Mais donc je suis pas du tout d'accord avec cette vision, et c'est effectivement assez simple parce que c'est un théâtre populaire qui veut dire des choses simples et qui répond de façon sans filtre à la polémique. Quand vous dites que ça vient à la fin, ben évidemment que ça vient à la fin, puisque à la fin les femmes sont tuées, on a la résolution du on va pas raconter toute l'histoire, mais on a la résolution de donc à la fin de on, on, on sait qui est le serial killer. Et donc, c'est à la fin que l'artiste peintre décide de commencer à, enfin, elle a commencé à peindre ces femmes qui sont des femmes mortes. Et c'est pas seulement l'histoire, donc, des autochtones, mais c'est aussi l'histoire de pouvoir peindre des victimes. Donc, la polémique elle-même se fonde là-dessus. Des mères qui veulent pas forcément voir leur fille peinte. Donc, c'est un peu plus subtil que ça. Je suis d'accord que, globalement, de toute façon, chez Robert Lepage et dans les pièces, à part certaines comme Le Polygraphe, où c'est vraiment une pièce qui est vraiment très très bien écrite, parfois on a un peu ce... D'ailleurs, parce que c'est un travail de tréteau,
de plateau.
De plateau, vous voyez, je deviens tellement vieux que je parle de tréteau au lieu de plateau. Mais c'est de m'être énervé. Et donc... voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, moi, je pense que
cette écriture de plateau génère formes qui sont pas toujours d'une écriture extrêmement aboutie. C'est ça que vous voulez
exactement
dire, Philippe Chevillier?
Merci.
Je vous en prie. Lucille Lecomo, une petite réponse avant que Marie Sorbier réintervienne.
Je vais pas me lancer sur le fait que le théâtre populaire n'est pas forcément un théâtre simple et que, au contraire, à mon avis, mais bon, là, c'est une grande controverse, en l'occurrence. D'ailleurs, les controverses, c'est quand même dynamique. Or, là, il n'y a rien de dynamique dans la pensée de Robert Lepage. Donc, il y a un problème vraiment de titre. Mais parce qu'il y a pas de tension. Enfin, je veux dire, la controverse, c'est une dispute. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce sont des opinions qui se frottent, des idéologies qui se confrontent et qui créent une pensée. Là, en l'occurrence, la pensée, elle nous est donnée telle qu'elle, avec aucune fuite, aucune sortie.
Parce qu'il ne problématise pas la question.
Voilà. Alors qu'au début, je voulais juste rajouter sur la forme, au début, on peut y croire au fait qu'on va nous laisser réfléchir un petit peu. Il y a même un côté théâtre documentaire qui, moi, m'a beaucoup plu au début. Dans l'installation des décors, il y a par exemple l'installation d'une vaste salle de shoot, comme il y en a dans le quartier de Hastings à Vancouver, où... pour le coup, il n'y a pas de discours. Les personnages interagissent entre eux. On voit ceux qui se font un shoot, la travailleuse sociale. Voilà, ce type de scène, elle me dit beaucoup de ce que c'est que ce quartier, de ce que c'est que la vie des gens là-bas. Et je n'ai pas besoin d'un personnage qui me fasse la leçon comme ce personnage, le narrateur qui fait la leçon sur l'opium au 19e siècle au Canada. Je trouve que c'est dommage. Il y a quelque chose, on tient au départ quelque chose d'une tension. On parlait de série télé, moi ça m'a fait penser à The Wire, le début, évidemment, puisque ce quartier où les gens s'adonnent à la drogue, où il y a des questions de prostitution. Laissez vivre les personnages, on a envie de lui dire ça. Laissez vivre les personnages, laissez vivre vos décors, c'est extrêmement bien fait. On n'a pas besoin du discours, on n'est pas bête, on peut réfléchir tout seul. Je pense vraiment qu'il y a un problème après de discours, oui.
Alors, encore une courte réponse de Philippe et Marie Sambier ensuite. Philippe, vous vouliez répondre à Lucille, à nouveau.
Mais non, je pense d'abord que la pièce, il y a tellement de choses dedans, quand même, il y a beaucoup de choses. C'est que même si on peut considérer, moi je suis pas d'accord, mais que la partie controverse et simpliste, il n'y a pas que ça. Les personnages, ils vivent par ailleurs. Hein, on peut prendre le personnage de Toby, on peut prendre qui est donc le documentariste. Il y a plein de personnages qui vivent leur vie par ailleurs. Et l'exposition qu'on peut penser peut-être maladroite sur la Chine, ça permet aussi de parler de ces Chinois qui ont été utilisés comme main d'œuvre, qui ont été exploités. Et je pense que pour beaucoup de gens dans la salle, qui sont pas tous des fins connaisseurs du Québec et du Canada, ils apprennent des choses quand même sur ce. Alors il y a la partie
documentaire.
Je pense que l'allégorie,
c'est un exposé.
L'allégorie du départ du vaudeville avec les bûcherons. Je dis pas trop parce que l'image est belle et tout ça. C'est aussi une façon de dire des choses peut-être mieux dans des discours où il est plus fort. Je suis bien d'accord. Mais je veux dire, on peut pas résumer tout un spectacle en plus d'une telle richesse à juste une explication sur la controverse que moi j'ai jugé plutôt bien ficelée parce qu'encore une fois, elle intervient à la fin et qu'elle justifie les deux personnages du début. On peut pas dire qu'on ne peut plus penser après ça. Je suis désolé, on n'est pas idiot, on peut penser autrement et on peut même penser effectivement comme vous que c'est trop simpliste. Mais voilà.
Moi, je vous rejoins un peu sur le côté simpliste qui m'a aussi gêné tout le long, mais au-delà de la partie controverse qui est en effet presque gênante à ce moment-là, sur cette justification de la non-exposition des portraits donc des femmes autochtones que la française en plus veut faire. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment et puis très limité en termes de pensée, vraiment. Mais j'ai trouvé ça presque globalement sur quasiment tout le spectacle. Par exemple, la scène inaugurale, qui est une scène qui se passe dans un musée avec un expert et donc une conservatrice, une restauratrice, je crois, de tableaux, sur une Joconde amérindienne. Et puis on finit, évidemment, et j'aurais pu le parier à la seconde où la première scène avait fini, que la dernière scène, on retrouverait un autre type de Joconde. Une espèce d'écriture en boucle où les scènes, quand même, sont... j'allais dire évidente, se suivre de façon évidente, c'est quand même un spectacle avec des grosses ficelles. Alors après, pour vous donner raison, Philippe, moi, dans la salle, le jour où nous étions, le public est quand même très, très attentif, très à l'écoute et très enthousiaste
très
à la
fervent.
Fin. Et juste pour finir sur ce que vous disiez sur le soleil, Je crois que j'ai la même analyse que vous, mais la réaction contraire. C'est-à-dire que je vais rarement au soleil parce que mon goût personnel m'y amène pas. Mais quand je dois y aller, pour des raisons autres, je suis quand même toujours heureuse de m'y retrouver parce que ressentir cette utopie-là, qui est en effet datée et peut-être finie, mais quand même au soleil, on la sent. Et quand on pénètre dans cette salle, quand on mange cette soupe, quand il y a tout cet univers du soleil, moi, elle me fait du bien, cette utopie. Les rares fois où j'y vais, je suis quand même contente d'y participer un peu.
Non, il y aurait tellement de choses à dire qu'il vaut mieux s'arrêter là, je crois, parce que si on commence
non,
à parler de la soupe...
Le problème, c'est qu'il n'y a pas un autre lieu qui corresponde à ce que c'était que le Théâtre du Soleil dans les années 70. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ça produit un effet de décalage et de nostalgie immense, alors que je n'ai même pas vécu le temps où, en effet, ça devait être incroyable. C'était un geste politique, de toute façon, en soi, de mettre une actrice iranienne, de mettre un acteur noir sur scène. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a envie de leur dire ça ne suffit plus pour penser le monde. Encore une fois, Philippe, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'il faut trouver un autre langage politique pour faire un vrai théâtre populaire politique. Ça ne fonctionne plus.
Bon, mais comme prévu, on s'est disputé sur cette controverse. Philippe,
vous voulez dire ça ? Non, je voulais simplement dire, mais on en parlera une autre fois, que je ne comprends pas ce qu'on doit donner comme autre discours qu'un discours humaniste à partir du moment où on s'attaque à ce genre de sujet. Mais bon, voilà.
Bon. Vous finirez ça dans le couloir après l'émission. Pour l'heure, nous parlions de Kanata, épisode à la controverse de Robert Lepage avec la Troupe du Soleil, jusqu'au 17 février au Théâtre du Soleil dans le cadre du Festival d'automne. À suivre dans la dispute la Locandiera, Goldoni, Alain Françon, Comédie Française, coup de cœur de Marie Sorbier pour les deux Joseph Danan et un petit salon de Lucille Comeau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec la Locandiera de Carlo Goldoni dans une mise en scène d'Alain Françon à la Comédie Française, un spectacle qui aurait dû être créé au printemps dernier, repoussé en raison d'une grève aux Français. Décidément, c'est la soirée des spectacles. Un problème. Bon, il y a peut-être quand même moins de problèmes pour la Locandiera. Je parle sur sa production. On va parler du spectacle. C'est une pièce en trois actes qui a été créée en 1753 où on va rencontrer la belle Mirandolina qui s'amuse, bien le dire, à séduire tous les hommes qui sont clients de son auberge. Parmi les plus assidus, le marquis de Forlipopoli et le comte d'Alba Fiorita qui s'affrontent pour profiter des faveurs de leur hôtesse. Et puis arrive un nouveau client, le chevalier, sexiste, misogyne, on peut bien le dire, qui lui ne compte pas du tout se faire séduire. Mais du coup, Mirandolina, ça l'agace un peu et elle veut séduire le chevalier. Le texte s'appuie sur une nouvelle traduction signé Myriam Tannant qui est morte en début d'année dernière, non cette année, juste après avoir livré cette traduction à Alain Françon.
Nous sommes deux comédiennes.
Deux comédiennes? Parlez, je n'ai plus peur de vous. Je sais fort bien à quoi m'en tenir au sujet de votre art.
Qu'est-ce que ça veut dire, expliquez-vous?
Je sais que vous feignez sur scène et hors de scène. Et comme je suis prévenu, je n'ai pas peur de vous.
Monsieur hors de scène, je ne sais pas feindre.
Comment vous vous appelez, Madame Sincère?
Je m'appelle...
Et vous, vous êtes Madame Fripouille?
Cher monsieur...
Comment vous y prenez-vous pour plumer les clients?
Non, je ne suis pas...
Les pigeons, comment les traitez-vous, ma bonne dame?
Je ne suis pas de...
Moi aussi, je sais parler argot.
Oh, cher monsieur le chevalier...
Pas les pattes!
Diable, il tient plus du bouseux que du chevalier.
Bouseux veut dire paysan, j'ai compris. Et moi, je vous dis que vous êtes deux insolentes.
Mais c'est à moi que vous parlez comme ça?
Une femme de mon rang.
Quel beau visage grimé.
Anne.
Quel beau postiche.
Maudit soit-il.
J'ai trouvé la bonne manière de les faire partir. Que croyaient-elles? M'attirer dans leur filet? Pauvres idiotes. Qu'elles aillent maintenant chez le comte lui raconter cette belle scène. Si je m'étais retrouvé devant des dames, par respect, mon devoir était de fuir. Mais quand je peux, les femmes... Je les maltraite avec le plus grand plaisir du monde.
Quel vilain. Philippe Chevillier, c'est pas vous le vilain.
Ouais, le
Locandiera.
Quoique, aujourd'hui, je suis un peu vilain. Comeau.
C'est bien.
Mais Lucille ne m'en veut pas, j'ai l'impression. Donc, Goldoni.
Ce qui se passe à la dispute reste à la dispute.
Alors, Goldoni, la Locandiera, moi, j'aime bien Goldoni. Je trouve que c'est, alors, c'est moins puissant que Molière. Je crois qu'il le disait lui-même, hein, qu'il n'avait pas le génie de Molière. Mais il y a une élégance, et puis, il y a cette volonté de faire un théâtre qui vient de la Commedia dell'arte, mais qui a une dimension sociale. C'est ce qu'on voit. Il a été, alors, je vais faire un rapprochement un peu audacieux.
Je sens.
Voilà. On parle de Tchekhov, médecin, qui a fait ses pièces en observant les gens. Lui, il était, alors il a failli être médecin, mais il a d'abord été avocat. Et je pense qu'il a eu pas mal de petits litiges. Il a beaucoup regardé les gens. Et j'aime bien la façon dont il regarde les gens et dont il regarde les petites gens et la façon dont il en parle.
C'est une audace raisonnable quand même, cette comparaison.
Voilà, c'est, oui, c'est raisonnable. Ah, je suis un peu fou aujourd'hui.
Ouais, mais... complètement. Ça, c'est l'effet réveillon.
C'est l'effet réveillon, absolument. Voilà. Donc, la pièce, bon, alors, c'est pas une pièce féministe, mais au moins, il y a une héroïne, hein, c'est une aubergiste. Et ça pose quand même les problèmes des femmes dans cette société de l'époque. Donc, double peine, parce que pour cette héroïne, qui est donc femme et donc opprimée par les hommes, et qui en plus est de basse extraction, enfin... partie du peuple et pas une aristocrate. Et elle a une position intéressante, c'est ce qui m'intéresse dans la pièce, parce que étant aubergiste, elle a quand même, c'est pas une servante, elle a un pouvoir sur ses clients.
Elle est patronne.
Elle est patronne. Et en plus, elle a une liberté provisoire, parce qu'elle n'est pas aubergiste, parce qu'elle l'a décidé, mais parce que son père est mort et qu'il va bien falloir qu'elle épouse le valet de l'auberge, mais elle a encore un petit peu de liberté devant elle. Et cette liberté, elle l'utilise un petit peu à gagner un peu d'argent, à séduire un peu, à jouer un peu avec ses clients qui sont là, qui sont totalement amoureux d'elle. Et puis elle se retrouve tout d'un coup dans le rôle de la femme qui va se défendre, qui va défendre les femmes et l'amour face à un chevalier macho qui lui dit qu'il ne tombera jamais amoureux des femmes. Et donc la pièce va partir un peu en vrille à la fin, parce que tout d'un coup, le jeu devient une forme de folie, que tout le monde perd un petit peu le pied. Et donc, il y a une petite accélération dans cette pièce, finalement, qui est une comédie assez bienveillante, mais qui prend un peu qui décolle un peu vers la fin. Et donc, Françon, qui est quand même un directeur d'acteur et un fin lecteur de texte, arrive à sortir tous ces éléments, arrive à faire du personnage, donc de la locandiera, de l'aubergiste, une femme qui, une sorte de virago, qui veut se battre à la fois pour son avenir, pour les autres femmes. Il sait, à mon avis, assez bien jouer justement de cette dimension plus mélancolique et plus sombre de la pièce qui serait pas là s'il poussait pas un peu les feux. Et non, et à moi, une chose qui m'a amusé, c'est ce décor. On a l'impression que maintenant, Françon, il s'en fiche complètement des décors. Mmh. Il se dit, je vous fais un décor 18e, je le finis même pas. Je fais juste une petite ébauche pour que ça soit quand même un tout petit peu joli, mais à peine. Et simplement, il l'utilise quand même très intelligemment parce qu'à la fin, on se retrouve dans cet espace fermé, presque abstrait. Et c'est là que les passions, les tensions s'exacerbent. Et on a ce moment très fort, je trouve, où on a l'impression que tout est résolu parce que finalement, tout s'arrange. Elle va épouser le valet. Et puis, il y a ce dernier geste du valet qui est de fermer la porte derrière elle. Et je trouve qu'il y a une lecture très intelligente de la pièce qui est, au premier regard, d'un classicisme absolu avec une très belle distribution. Mais c'est quand même agréable de voir un classique traité intelligemment.
Bon, j'y reviendrai, mais je ne crois pas du tout que les scénographies de Jacques Gabelle, qui travaille toujours avec Alain Françon, soient si simples que ça. Enfin, vous avez dit une chose et son contraire.
J'ai caricaturé.
Mais je pense que Françon ne se fiche pas du tout des espaces, et ça fait très longtemps qu'il fait juste des murs obliques avec deux portes, et que ça suffit à faire des Edouard Bond fait saisissant.
Si je puis me permettre, il veut pas faire joli, quoi. Il veut pas forcément innover dans le décor.
On est d'accord là-dessus. Voilà. Lucille Como, est-ce que vous allez vous bagarrer avec Philippe Chevillier?
Non,
cette
pas du
production.
Tout. Non, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le spectacle. Je trouve que le décor est en effet d'une très grande intelligence. En fait, il y a juste deux espaces qui correspondent vraiment à l'action de la pièce. Un espace extérieur qui est l'espace de sociabilité où on déjeune, où on reçoit, où les nouvelles arrivées arrivent. Nouvelles invitées arrivent. Et puis il y a un espace de l'intime qui est la chambre qui devient une buanderie puis un grenier. Et dans l'évolution du décor, il y a quelque chose quand même. En effet, vous le disiez, d'une radicalisation des enjeux qui est quand même assez, assez spectaculaire. Ça commence quand même joyeusement dans une comédie de mœurs extrêmement moliéresque. Il y a un petit peu de Marivaux quand même sur les bords parce que c'est un vaste jeu et qu'il y a une utilisation du dialogue, de la parole extrêmement ludique dans les enjeux amoureux qui ressemble quand même un peu qui regarde un peu vers Marivaux et vers Beaumarchais. Et puis on finit quelque part d'assez étrange. Enfin, moi, la fin m'a vraiment frappée, puisqu'on arrive à un renoncement de la part donc, de cette femme qui est interprétée, parce qu'on ne l'a pas encore dit, par Florence Viala, qui est géniale. Je pense que, en fait, toute l'intelligence, surtout de l'interprétation de ce classique, repose sur le choix de Florence Viala dans ce rôle. Parce qu'on aurait pu voir une femme plus jeune, déjà une jeune première, parce que, bon, certes, il est dit qu'elle n'est plus si jeune, mais de fait, elle a encore l'âge de se marier, elle a encore l'âge d'avoir des enfants. Là, on a quelqu'un qui est assez sec, finalement, qui n'est pas du tout une jeune fille dans la manière d'interpréter le personnage, et qui, du coup, apporte une gravité à cette espèce de marivaudage qui devient de plus en plus grave, de la même manière qu'en regard, le personnage personnage interprété par Stéphane Varupen, donc du chevalier misogyne, devient de plus en plus violent. Et ce physique, qui est au départ un physique un peu de beau gosse, blond, avec la barbe naissante, devient extrêmement inquiétant dans les scènes finales. Moi, j'ai été très impressionnée par cette mise en scène d'un texte que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que vous disiez, c'est pas féministe. Si, je pense, pour le coup, moi qui déteste ce mot employé surtout à toutes les sauces pour parler des classiques, que là, pour le coup, il y a un vrai propos sur les personnes, pas forcément sur la femme en général aujourd'hui, mais en tout cas sur les personnages féminins de théâtre, sur le jeu, sur le marivaudage, qui est très, très intéressant.
Bien, Marie Sorbier à présent, le qu'en diriez-vous ?
Moi, je suis un peu moins enthousiaste. je trouve que c'est un spectacle sans surprise, c'est-à-dire qu'on connaît un peu le travail de Françon, et puis un peu la comédie française, finalement, on sait ce qu'on va aller voir, et puis on en a pour son argent. On voit un spectacle classique, monté de façon très intelligente, parce que vous l'aviez dit, Françon est un metteur en scène intelligent et avec en effet une lecture des textes qui est toujours étonnante. Donc ça, évidemment, on le retrouve. Les comédiens sont formidables, on l'a toujours dit. La troupe du français est super. Moi, je mettrais encore plus en avant Stéphane Varupen, que j'ai trouvé incroyable, de justesse et justement peut-être de modernité, plus peut-être que les autres. Enfin, je l'ai trouvé très fin et très subtil dans une partition qu'il n'est pas forcément. Donc c'est lui vraiment que j'ai regardé tout le long du spectacle. Je voulais juste vous citer, parce que je la trouve incroyable, la première phrase de l'édito d'Éric Ruff, qui est dans le dossier, donc qui est distribué en salle. Éric Ruff dit « Alain Françon est moderne depuis tant d'années qu'on pourrait finir par se méprendre et le penser classique. » Je trouve ça très intelligent de la part d'Éric Ruff, et qui claque au nez toutes les critiques éventuelles qu'on pourrait faire à ce spectacle, et qui le détourne de façon avec une pirouette. Je trouve ça très intelligent, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est en face d'un classique. Moi, je ne connaissais pas le texte non plus, donc je suis contente de l'avoir entendu. C'est vraiment ça, il fait entendre un texte qui, moi, alors pour le coup, m'a plutôt plombé l'ambiance. Je trouve cette fin un peu terrible, où la raison qui gagne finalement cette femme, alors que elle est présentée comme une femme forte, elle tient son auberge, elle est indépendante, elle se joue des hommes qui la séduisent, elle arrive à jouer avec eux de façon à la fois maligne et sympathique, c'est-à-dire qu'on l'aime bien quand même. Et puis, même avec ce chevalier, donc qui quand même arrive à la toucher un petit peu par ailleurs, mais bon, elle va finir quand même par choisir le choix du père, son père qui lui avait dit d'épouser donc son serviteur. Et cette scène finale qui est absolument terrible, où ils sont plus que tous les deux à regarder dans des directions opposées, dans ce cadre de scène qui devient contemporain. C'est la dernière image et c'est la seule image contemporaine du spectacle, esthétiquement j'entends. J'ai trouvé ça totalement plombant.
Vous n'êtes pas si négative.
Je pense que c'est fait exprès, que c'est plombant à dessein.
J'ai si souvent clamé mon amour pour Florence Viala que j'ai plus besoin de le faire après que Lucille Comeau l'ait dit. Mais bon, elle est évidemment formidable, comme elle l'est quand même très, 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 très souvent. Mais pour Stéphane Varupen, je vous rejoins tout à fait, Marie Sorbier et Lucille Comeau. Parce que d'autant plus que moi je l'avais jamais vu dans ce type de rôle, Stéphane Varupen, et que ça lui va très bien, parce qu'il il gagne aussi en âge et en dimension. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais je savais pas capable de cela. Donc ça, c'est aussi grand lecteur, grand directeur d'acteur Alain Françon, ça lui permet. C'est vrai qu'il est à l'aise, mais je vous avoue, pour me mettre les pieds dans le plat, que j'ai passé un agréable moment, mais je me suis un peu demandé moi pourquoi monter cette pièce. Et alors quand je vous entends, Lucille Comeau, je me dis, tiens, elle a entendu des choses, vous aussi, Marie Sorbier, vous aussi, Philippe Chevrier. Moi, je ne me semblait pas que cette production amenait, pour le coup, matière à penser, que je me suis dit que c'était plus de l'ordre du divertissement, un petit peu, c'est une comédie légère qui tourne un peu au drame, on va dire comme ça, mais ça ne m'a pas donné beaucoup de matière et j'attends quand même plus d'une représentation théâtrale et plus d'Alain Françon.
Mais parce que justement, je pense que c'est une histoire de mise en scène. Moi, ce qui me manque dans les mises en scène d'Alain Françon, et les dernières et celles-ci y compris, c'est que je trouve que ça manque d'urgence, ça manque de nécessité. Il y a quelque chose qui est très... Encore une fois, un peu lisse, un peu pas facile, mais quelque chose
Moi, je dirais pas ça parce que c'était quoi? Moi, à la campagne, la précédente, Turgenev, qui était, pour le coup, qui m'avait donné beaucoup de matière. Et puis, je pourrais citer bien d'autres spectacles.
Je sais pas, moi, les pièces de Bond m'avaient fait le même effet. Il y a quelque chose de...
Ces Tchekhov sont magnifiques.
Alors, c'est magnifique, mais est-ce qu'il y a une urgence et une nécessité à les monter? Comme ce que vous venez de dire, moi je la ressens jamais. Alors est-ce que c'est une histoire générationnelle? Je ne sais pas.
Moi je pense que c'est plutôt la pièce et pas Alain Françon. Dans mon propos, c'était ça. Moi. Pourquoi cette pièce-là, Lucille Comeau?
Moi je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes, outre le personnage féminin. Sur le jeu, c'est lié évidemment à la question féminine, puisqu'il y a donc deux actrices, c'était l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, deux actrices qui arrivent pour être logées dans la maison et elles trouvent plus pratique, de profession, et elles trouvent plus pratique de se présenter comme des femmes de la haute société. société. Et il y a tout un jeu en permanence, justement sur le jeu, sur ce que c'est que jouer vraiment, ou jouer sur scène, ou jouer dans la vie pour avoir des avantages. Et du coup, évidemment, quand on est une femme, bah, ça s'apparente à une forme de prostitution. Tout ça, moi me parle sur ce que c'est que la condition de comédienne à cette époque-là, et sur ce que à quel point le jeu peut être dangereux. Je vais pas revenir à la fin, mais je trouve que moi, elle m'a vraiment intéressée, cette pièce, ne serait-ce que parce qu'elle se situe à un croisement qu'on a assez peu en France, esthétiquement, entre la comédie de mœurs à la Molière, et vraiment quelque chose qui regarde vers la comédie un peu plus sociale et beaucoup plus abstraite, Marivaux, Beaumarchais. C'est pas un type de texte qu'on a beaucoup en France, donc moi, historiquement, sur le plan de l'histoire du théâtre, du jeu, on va dire, ça m'a intéressé.
Philippe Chevillier.
Moi, je défends aussi tout à fait ça. J'en avais vu une mise en scène de Marc Paquin qui était assez différente, onirique, qui était assez belle, avec Dominique Blanc, enfin même très belle, et Marcon. Je pense que Strehler a dû le monter aussi, je ne sais pas comment. Sur la fin, c'est intéressant ce que dit Marie, parce qu'en fait, le côté plombant, c'est que je pense là beaucoup Françon, parce qu'au fait, la pièce, elle est conçue pour rendre extrêmement sympathique le valet, et pour qu'à la fin, ça soit un soulagement, parce que vraiment, elle l'a martyrisé.
À la Molière,
revienne à la raison, c'est un beau dénouement. Alors que Françon, justement, nous tend.
Il n'arrange pas Laurent Stocker qui joue le valet.
Voilà. Et donc, il en fait quelque chose.
Un repoussoir.
Voilà. Et à la fin, donc, la pièce devient sombre, et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette mise en scène.
Bon, faut que je retourne voir la Locandia. De Carregard de Lenny, mise en scène d'Alain Françon, à la Comédie Française en alternance. J'ai pour le faire, et nos auditrices auditeurs aussi, jusqu'au 10 février. Alors c'est un peu tard pour le glisser sous le sapin, peut-être un cadeau en retard. Marie Sorbier, votre coup de cœur ce soir pour un livre paru chez Actes Sud, Joseph Danan, Absence et présence du texte théâtral, donc un manuel de magie.
Évidemment. Exactement. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça, universitaire ou didactique ou je ne sais quoi, mais en fait, pas du tout. Alors, c'est un petit recueil, un petit essai qui fait 80 pages dans la collection Apprendre d'Actes Sud Papier, qui est une collection incroyablement intéressante. Joseph Danan, on le connaît, c'est un universitaire qui travaille beaucoup sur le théâtre, il était dramaturge également. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est que ça se lit de façon presque comme un roman, c'est-à-dire que c'est vraiment le théâtre d'aujourd'hui, le théâtre des 3-4 dernières années, donc le théâtre que forcément je connais bien, donc j'ai l'impression d'avoir vu à peu près tout ce qu'il a vu, donc c'est très agréable en tant que spectateur de pouvoir s'immerger dans ses exemples, puisque du coup on comprend de quoi il parle, et il interroge notamment la sémantique, c'est-à-dire qu'il nous crée un nouveau vocabulaire, un vocabulaire pour pouvoir penser les variations du texte aujourd'hui au théâtre. Donc il parle par exemple de textes matériaux et de textes gisements, juste pour vous donner un exemple, le texte matériaux c'est quand Julien Gosselin monte 2666, donc le roman de Bolaño. Il le tord, il le détord, il en fait plein de choses, mais quand même, au final, on retrouve le roman de Bolaño quand on assiste au spectacle. Et le texte gisement, qui est, je trouve, un très joli mot, qui pour lui, par exemple, l'Oresti de Castellucci, qui nous annonce un spectacle dit l'Oresti, il n'y a pas un mot de l'Oresti dans l'Oresti de Castellucci, mais le spectacle a été fondé à partir du texte. Et il fait toute cette distinction, ce glissement, justement, comme quoi, aujourd'hui, sur les plateaux, le texte n'est plus premier, mais devient un matériau au même titre que peut l'être la lumière, la scénographie ou tous les autres aspects théâtrales. C'est décrit de façon extrêmement simple. On y côtoie justement Romilio Castellucci, Julie Deliquet, Emmanuel Noblet avec Réparer les vivants, donc des choses très différentes, Thiago Rodriguez, Dorian Rossel. Il y a plein de gens qui sont mentionnés sur des adaptations de films, sur des écritures de plateau, enfin tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et c'est incroyablement intéressant et joyeux. Voilà. Et puis ça nous donne surtout une matière à penser avec des mots nouveaux, ce que je trouve intéressant.
Ben, on a très envie de lire Joseph Danan, après vous avoir écouté Marie Sorbier. Le livre s'appelle « Absence et présence du texte théâtral » et publié chez Actes Sud Papier. Il me semble bien que cette musique nous annonce que nous sommes entrés dans le petit salon de Lucille Comeau. Et ce soir, Lucille, il s'agit de faire partie du spectacle.
Oui, il se prépare en ce moment au Théâtre du Châtelet à Paris, un sacré projet dont tous les détails ne sont pas encore connus, mais qui se dévoile peu à peu. Alors ça s'appelle DAO, D-A-U, et ça va donner lieu à une expérience théâtrale extrêmement particulière. Pendant plusieurs mois en Russie, des dizaines de personnalités ont été enfermées dans des lieux et des conditions mimant l'URSS des années 30 à fin 60. 60 à peu près. Elles ont été filmées. Les lieux vont être en partie remontés dans le théâtre en travaux, les films diffusés pour quelques heureux qui auront le droit de vivre quelques heures dedans. Les spectateurs seront d'autant plus actifs dans ce vaste jeu qu'ils auront subi au préalable des tests de personnalité pour déterminer leur trajectoire idéale à l'intérieur du dispositif. On cite parmi les participants à ce vaste projet le chef d'orchestre Théodore Currensis, mon chouchou, les metteurs en scène Dmitri Tcherniakov, Romeo Castellucci, la performeuse Marina Abramovic, une pléiade de stars du cinéma français qui prêteront leur voix au doublage des films. Un projet monstre, pas si courant en France, où l'institution théâtrale n'est pour le moment pas très friande de ce type de théâtre immersif, qui connaît à l'inverse un très grand succès dans les pays anglo-saxons, à Londres et New York notamment. Une des premières compagnies à s'être fait connaître pour ce genre de projet s'appelle Punch Drunk, elle est londonienne, et proposait par exemple en 2013 un vaste jeu de pistes dans un hangar désaffecté transformé en studio hollywoodien des années 50. Les spectateurs avaient le visage couvert de masques neutres. Ils étaient invités à déambuler, à observer les acteurs, parfois même à interagir avec eux selon des modalités qui étaient réglées au départ. Parfois, la trame narrative qui sert de base à l'expérience est issue du théâtre classique. Dans Sleep No More, par exemple, la compagnie s'emparait de Macbeth, monté dans un hôtel de Chelsea, à New York. 5 étages où on pouvait apparemment circuler en toute liberté et parler avec les comédiens. À Paris, depuis l'été dernier, une ancienne usine qui sera bientôt reconvertie en hôtel de luxe sert de lieu à une compagnie qui s'appelle Le Secret pour un spectacle adapté d'Hamlet qui s'appelle Helsingor. On peut apparemment circuler entre une salle du trône, quelques chambres, une chapelle, un cimetière, en sélectionnant ainsi parmi les différentes scènes de la pièce de Shakespeare. Dans un article du Monde paru en août dernier, Brigitte Salino, qui s'y est rendue, remarquer la jeunesse du public et aussi les applaudissements nourris à la fin de l'expérience et de conclure. Intégrer les spectateurs, je cite, à une représentation n'est pas nouveau. Il suffit de se souvenir de L'Oriando Furioso de Luca Ronconi et du 1789 d'Ariane Mouchkine, avec les comédiens circulant sur des chariots parmi le public. Mais c'était un autre temps, le politique primait sur le ludique et l'art sur la technologie. Il est vrai que le théâtre immersif s'apparente en bien des aspects aux jeux vidéo, dont il revendique d'ailleurs explicitement les codes, et donne la primeur à une émotion brute, celle de la rencontre directe avec la fiction. Alors pourquoi, à votre avis, ce type de forme rencontre-t-elle si peu de suffrages en France?
Alors, qui va ouvrir le bal? Marie Sorbier.
C'est une question intéressante. Moi, j'ai la chance d'en avoir vécu plusieurs dans les festivals à l'étranger dans lesquels nous allons. Et c'est vrai que dans les festivals de performing art un peu branchés, si on peut dire ça, dans plein de pays, le théâtre immersif est quand même très présent. Pas toujours pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses... Il peut être traité de façon très légère, c'est-à-dire que
très gadget.
Parfois, les gens confondent immersif et déambulation, par exemple. Ils nous font une déambulation dans un hangar vide avec 3 comédiens qui font des performances dans un coin et ils appellent ça théâtre immersif. Donc, c'est un peu compliqué. Je crois que juste pour, il faut différencier 2 types de théâtre immersif. On a le théâtre immersif technologique, donc les lunettes 3D, les casques, enfin appareillés, on peut dire ça comme ça. Et puis le théâtre immersif traditionnel, donc avec juste que le quatrième mur se casse et qu'on se retrouve au milieu des comédiens et qu'il n'y a plus cette distance ou cette séparation entre les deux. Sur le fait de pourquoi il est moins intégré en France, je crois qu'il y a pour moi, il y a une histoire d'éducation. C'est-à-dire qu'on est habitué à recevoir les choses et non pas à participer. Peut-être que dans les pays anglo-saxons ou les États-Unis, même dans l'éducation, il y a quelque chose de beaucoup plus participatif.
Sur la prise de parole, sur...
Exactement, qu'on n'a pas encore et que donc on est éduqué à juste s'asseoir et à recevoir les choses et pas du tout à participer. Et puis, on a quand même encore tendance à sacraliser le théâtre et donc ce fameux quatrième mur qui compte encore beaucoup, j'ai l'impression, et pour les spectateurs et pour les metteurs en scène. Et parfois, quand les metteurs en scène tentent de le percer, ils le font pas forcément de façon très pertinente, ce qui du coup pousse les gens à rechercher encore plus le quatrième mur. On le voit notamment dans tous les spectacles un peu participatifs, où les gens sortent de scène et viennent prendre la gênance globale des salles françaises à ce moment-là. Vous vivez le même spectacle au Canada, par exemple à Montréal, les gens se lèvent la main et se lèvent pour pouvoir participer. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un rapport, je trouve, à l'éducation là-dessus très fort.
Première prise de parole de Philippe Chevillier sur ce thème.
Alors moi je pense qu'on est un peu quand même bougé, qu'on fait beaucoup plus de théâtre immersif sans le savoir finalement. Même dans les spectacles récents, on prend le spectacle de Vanhoef, Tragédie romaine, où en fait on montait sur la scène et tout le théâtre était un peu transformé en lieu de voilà.
Sur la scène, notamment, il y avait un bar et un stand etc. pour s'acheter à manger tout au long du spectacle. On pouvait monter sur scène voilà. pour s'acheter un sandwich ou une boisson.
À n'importe quel moment, sauf à la fin pour manger. Et il y a eu aussi, Vano avait fait aussi scène de la vie conjugale au théâtre de Créteil où on passait d'une salle à l'autre. Moi, je me revois sur un canapé devant un couple sur un lit en train plus ou moins de faire l'amour et tout ça. C'était un peu gênant, mais finalement, on s'y fait. Et donc, moi, j'ai toujours aimé c'est le côté à la fois parfois d'ambulatoire quand c'est bien fait. Il y a eu une expérience, je m'en souviens, à Avignon en 2000, c'était Hôtel Europa, qui différentes troupes de l'Est qui présentaient des formes
très
de sketch. Et c'était assez réussi. Et puis, on peut pas. Alors, si on parle des Français, il y a par exemple Roland Houzet, quand il a fait
La solitude des champs de coton,
il l'a d'abord créé dans un centre commercial où on avait des casques sur les oreilles. Donc,
Suivre les comédiennes dans l'espace, et ça avait été fait. Alors, c'était au moment de Vigipirate, la première, effectivement, les comédiennes commençaient dans la rue devant le théâtre des Boules du Nord. Mais après, pour des raisons de sécurité,
on
à
avait
ce moment-là,
d'entrer à l'intérieur.
Il fallait rentrer le spectacle entier à l'intérieur.
Alors, c'est vrai qu'on a moins l'habitude d'un lieu dédié, et puis on a un petit peu peur en France aussi, je pense, du syndrome Disney, c'est-à-dire genre la maison hantée, ou finalement Macbeth qui serait transformé en truc, elle est derrière la porte ensanglantée, et tout ça, et les gens crient. Et la crainte aussi de ce que disait Marie, c'est-à-dire le gadget, la technologie. Moi, j'ai fait un spectacle de Furia del Maus avec un smartphone où tout était décidé par smartphone. Personne ne comprenait rien. On courait dans tous les sens. C'était très drôle. Mais on comprenait rien au spectacle. Bon. J'avais bien aimé quand même. Mais bon, on comprenait rien. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est cette quête forcenée d'abattre le quatrième mur, qui est vraiment, toujours été le désir. C'est vrai qu'en même temps, au théâtre, parfois, le quatrième mur, il s'abat avec rien, même quand on est assis sur donc voilà. Et puis, je crois que le problème de fond, c'est que un projet artistique qui naît et qui intègre justement la dimension immersive, c'est formidable. Ce qui serait plus embêtant, c'est de se dire, bon, on va créer un lieu immersif et on va demander à tous les metteurs en scène d'inventer quelque chose. S'ils n'ont pas envie de le faire, c'est-à-dire que ça doit pas être le lieu immersif.
Ça m'intéresserait, moi, tiens. Parce que cette proposition, à l'inverse de vous, Philippe.
Ah non, mais ça peut être drôle.
Qu'on puisse dire à tous les metteurs en scène de venir se confronter à cette proposition.
Oui, c'est vrai que dit comme ça, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que l'immersion n'est pas une panacée, mais qu'à partir du moment où justement tant de compagnies, y compris françaises, ont déjà eu des projets dans ce sens, pourquoi on ne développerait pas ça plus avant ?
Il y a en France quand même des gens qui font ça aussi depuis très longtemps. Moi, je pense au collectif Art Poème, qui est basé à Roubaix, qui propose ça depuis plus de 20 ans et qui fait vraiment des spectacles extrêmement intéressants. Alors, on a souvent vu aussi Rimini Protocol, nos amis suisses, venir proposer ce type d'expérience. Et puis aussi, il y a quand même les metteurs en scène dont on a parlé, Castellucci, quand il avait fait cette proposition dans la grande halle de la Villette, entièrement vide. On entrait par petits groupes, je crois que c'était 70 ou 80 la jauge, dans cet immense espace. Hein, quand c'est vide, la grande halle de la Villette, c'est très très grand. On savait pas trop ce qui se passait, et puis tout d'un coup, il se passait des choses, véritablement. On était au milieu d'une action, enfin, c'était quelque chose de très impressionnant. Mais je pense aussi d'une façon un peu moins évidente, mais ça ira, fin de Louis de Joël Pommerat. C'est une assemblée constituante dans laquelle nous sommes, puisque les comédiens sont un peu partout dans la salle et peuvent monter à la tribune. Il y avait cette dimension-là, immersive, au sens d'une façon très très simple, mais de dire, oui, nous sommes tous en train de construire cette constitution de la République. Et puis, pour réunir nos deux sujets, peut-être l'appropriationnisme culturel et le petit salon immersif, on se souvient peut-être de la grosse polémique qu'il y avait eu avec Bret Bellet au théâtre de Gérard Philippe à Saint-Denis, sur le spectacle qui s'appelait Exhibit B, alors que j'avais pu voir, il fallait franchir des cordons de CRS à l'époque, parce qu'il s'agissait de montrer des natifs d'Afrique du Sud dans des scènes reprenant des clichés coloniaux
de zoos humains,
mais aussi comme ça, c'est souvent le cas aussi des passagers qui sont attachés, ligotés sur le siège d'avion pour les ramener dans leur pays. Bon, ce spectacle avait été quasiment pas interdit, mais enfin ça s'était passé de façon très très compliquée. En tout cas, le débat n'avait pas pu avoir lieu, et là on a vraiment les deux effets. Mais Lucille Comeau a envie de nous relancer, je sens.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la question politique que ça soulève, parce que ce que vous disiez, Marie, en effet, est-ce que c'est parce que le spectateur français a une culture de la passivité par rapport et reçoit ? Moi, je crois pas, parce que je pense que, paradoxalement, les spectacles immersifs sont des spectacles où on réfléchit encore moins à son statut de spectateur. Et le fait d'avoir un quatrième mur, on le sait très bien, c'est la distanciation, c'est le jeu brechtien, et c'est la manière d'intégrer justement de la réflexion et de laisser la place pour la tension entre le spectacle, le spectateur en tout cas, et la scène. Et c'est drôle ce que dit Brigitte Salino, parce qu'à mon avis, elle se trompe en parlant de 1789 d'Ariane Mouchine, ça n'a rien à voir. En l'occurrence, c'était en effet les comédiens qui circulaient. Les spectateurs, ils étaient dans une attitude relativement classique de spectateurs de théâtre traditionnel. Mais en tout cas, la question, elle est en effet, à mon avis, politique, et c'est la question du rapport à ce qu'on voit, et est-ce qu'on est capable de critiquer ? En tout cas, est-ce qu'on se met dans la position d'être critique par rapport à ce qu'on nous donne à voir ?
Non, mais dans votre lancement, vous disiez faire partie du spectacle, et je pense que c'est vraiment ça dont parlait Marie Sorbet, c'est-à-dire qu'on a tous l'expérience au théâtre. Quand un comédien dit « quelqu'un va venir sur scène et commence à s'approcher de vous », on a envie de regarder ailleurs pour évidemment pas se faire remarquer. Il y a peu de gens en France qui ont envie spontanément d'aller sur les plateaux, Marie Sorbier.
Parce que la notion aussi, je trouve, qui est très liée au théâtre immersif, pardon, c'est l'intimité. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on n'est plus dans une salle de 200 ou de 1000 personnes perdues, enfin tout seul avec le spectacle. On se retrouve, comme dans Brett Bellaise, en face et avec ce noir menotté et puis torturé qui te regarde dans les yeux. Et le théâtre immersif, c'est ça. On est toujours en petit groupe. Ce que fait Rimini Protocol, par exemple, récemment avec Nerschlass, qui était à la MC 93, où on se retrouvait par petits groupes de 5, de 6 face à la mort. Donc, il y a un rapport à l'intimité directe, et est-ce qu'on est capable de recevoir ce que le comédien en face va nous donner, yeux dans les yeux, et sans cette protection de la communauté ?
Philippe Chevillier. Alors,
moi, je crois que c'est plus facile, et que l'immersion elle se passe de façon beaucoup plus directe, parce que, justement, le théâtre participatif, où on est dans une salle et qu'un acteur vient vous chercher, c'est lui, il vient vous chercher pour briser vous-même le quatrième mur. Ça, on n'a pas envie de le faire. Mais en revanche, si on est soi-même plongé dans une histoire et intégré, on n'a plus du tout ce tabou du je vais me donner en spectacle. On est dans le spectacle à ce moment-là.
Lucille, comment ?
Oui, en effet, et il y a aussi une grande différence dans ces cas-là entre ce que le théâtre documentaire, par exemple, vous parliez de Rimini Protocol, fait de l'immersion, et le théâtre de fiction. Ça ne fait pas du tout le même effet, pour le coup, parce que dans Nerschlass, pour le coup, ça produit un effet de malaise immense, puisqu'on se retrouve dans des pièces, pour expliquer juste le protocole, on se retrouve dans des pièces occupées par des personnes qui savaient qu'elles allaient mourir, donc avec leurs souvenirs, etc. Et là, pour le coup, ça produit un effet évident, qui est aussi un effet politique de compréhension de l'autre, enfin, très simple. Alors que quand c'est de la fiction, à mon avis, Shakespeare se balader au milieu des personnages, pour moi, c'est un problème vraiment de torsion du texte shakespearien et de mauvaise réception presque de ce que c'est que le théâtre shakespearien.
Oui, mais le texte n'est plus qu'un matériau. Vous avez bien écouté le coup de cœur de Marie Sorbier, Joseph Danan. Il ne parle pas du théâtre immersif.
Non, pas encore, mais peut-être ce sera le...
Ah, mais ça vous pose problème.
Ouais, je vois pas l'intérêt en fait. Je suis peut-être extrêmement scolaire et je me reconnais dans l'attitude que décrivait Marie. Mais dans le cas d'un théâtre de texte tel que le théâtre de Shakespeare, je ne comprends pas l'intérêt de l'immersion. Pour moi, c'est un contresens presque par rapport au texte.
Philippe Chevillier.
Ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi penser qu'il y a des poèmes qu'on peut porter sur scène et qui n'ont pas besoin justement d'une immersion, qui ont besoin d'un regard, de quelque chose. Donc évidemment, ça dépend, mais on peut aussi faire un gisement, peut-être même avec un texte de Shakespeare, je ne sais pas, pour faire quelque chose de différent.
Oui, moi, la crainte que j'ai sur ce développement-là, c'est en effet le côté gadget. On a eu pas mal de spectacles, notamment avec des casques, j'y pense, parce qu'en une saison, on en a eu
généralement, ça ne marche pas en plus.
Et ça devient très vite finalement un obstacle entre soi et le théâtre ou ce qui est présenté, je sais pas comment le dire, mais ou la réalité virtuelle, par exemple, je pense à la Biennale de danse de Lyon qui cette année qui a fait tout un développement autour de ce projet avec Gilles Jobin et Johan Bourgeois notamment qui ont recréer leurs pièces pour la réalité virtuelle. Donc on était en groupe de 7 ou 8 avec ses lunettes et puis on voyait donc Johan Bourgeois tomber et se relever. Je n'ai toujours pas compris l'intérêt de, une fois avoir vu le spectacle en vrai, c'est ça qui est beau justement, cette magie du corps qui se relève et on voilà. Et en réalité virtuelle, on tombe dans un jeu vidéo. Et pour moi, ça m'a vraiment coupé de l'intérêt du spectacle vivant, c'est-à-dire quelqu'un en face de moi qui me propose quelque chose.
Ah, mais c'est vrai que les casques, ça marche aussi très bien quand c'est Simon McBurney avec un casque binaural pour chaque spectateur.
Et là,
c'est
vrai,
ça,
et là, ça marche.
Ça vraiment.
Et où, en l'occurrence, on est dans un dispositif un peu plus classique du théâtre traditionnel, parce qu'on est assis dans une salle de théâtre. Bon, là, en plus, c'était l'Odéon, donc c'est le grand théâtre à l'italienne, et ça fonctionne parfaitement. Et c'est peut-être l'immersion la plus intéressante qui soit, oui, en effet. Ouais.
Bon, on aime bien le son en même temps, ce qui est un peu logique. Oui. Sinon, on ne ferait pas de radio. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir du petit salon, Lucie Gobo? Vous avez d'autres choses à faire? Non,
oui,
on va vous libérer.
Tout à fait. Hein, préparer mon petit foie gras.
Très bien. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute. Nous, c'est tous les soirs qu'il y a des cadeaux avec vous, Sarah Dion. Vous nous rappelez la question de vendredi, avant de nous donner sa réponse.
Comment se nomme la déesse du riz et de la fertilité célébrée en Indonésie?
La réponse.
Dewishri.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur. C'est à l'hôtel de Caumont, Aix-en-Provence, jusqu'au 24 mars. Quelle est la question, Sarah?
Quel célèbre poète a publié un portrait de Chagall dans son recueil 19 poèmes élastiques?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont envoyées par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions, vous abonner au podcast de la dispute. Nous nous retrouverons demain à 19h avec Mathilde Serrel, Christophe Comte et Philippe Pézori pour une dispute musicale un peu spéciale puisque nous serons dans le jour de Noël et nous parlerons de nos choix de l'année. Sur nos platines donc, Babelsberg de Gruff Fris chez Offstred, La fête est finie plus Épilogue d'Orelsan chez Vagram 3e Bureau, Vision Songs volume 1 de Laharaji chez Numéro Groupe et puis Different Voices for You, Different Colors for Me, démo 1980 de Robert Rental chez Optimo Musique.